Je veux simplement vous partager des vérités par rapport encore à notre identité en Christ. Tournez pour ça dans Galates 2:20. On va commencer avec ce verset. Est-ce quelqu'un qui est capable de me le dire par cœur? Ça, c'est un verset à apprendre. Oui, vas-y, Sébastien.
J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Amen.
Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même
pour moi. Amen. Grande vérité du Nouveau Testament résumée dans un verset. Ce qu'on voit ensemble les dimanches après-midi à partir de... On a commencé, ça fait quelques semaines, puis on a encore pour plusieurs semaines. Je dirais même moi, la vie victorieuse en Jésus-Christ tourne autour de cette grande vérité-là. C'est plus moi, la source de la victoire, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi, puis c'est par la foi, dans ma confiance au Fils de Dieu. Et donc, on va regarder ça ensemble, puis aussi, est-ce qu'il y a quelqu'un, puis ça, il est facile, là, ça excuse-moi, tu sais, des fois, les enfants, ils disent, Jésus pleura, là, pour avoir un chocolat gratuit, là, mais là, c'est excuse-moi, pareil, mais je vous dis la référence, êtes-vous capable de me donner, c'est quoi le verset? Philippiens 1:21.
Christ est ma vie. Et mourir
m'est un gain. C'est ça. Quand même, c'est pas très long, là. Mais ça, c'est... Christ est ma vie. Tu sais, c'est quoi ta vie, toi? C'est Jésus-Christ. T'allais voir Paul, là. Hey, peux-tu me conter ta vie? Jésus-Christ. C'est ça. Puis mourir m'est un gain, c'est pas parce qu'il était suicidaire, c'est parce qu'il avait cette espérance. Justement, il soupirait après cette délivrance. Si je meurs, là, waouh, ça va être encore mieux. Tu sais, oui, c'est vrai, parce que Philippiens, il était en prison, puis tout un concept de un contexte de persécution, mais il savait que le meilleur était à venir. Quel bel épître, Philippiens. Tu sais, moi, je l'ai déjà dit, j'ai un gros problème avec la Bible, j'ai de la misère à trouver un livre préféré, là. Fait que j'ai un top 5, un top 10, un top Nouveau Testament, top Ancien. Ouais, en tout cas, mais Philippiens, là... Dans toute la Bible, je pense que je pourrais dire que ça serait dans mon top 5. C'est vraiment riche. En tout cas. Donc, ben, tu sais, vous avez peut-être suivi pendant que Sébastien le récitait, mais Philippiens, Galates 2:20, on l'a lu. C'est Christ qui vit en moi. On continue avec cette série sur notre vie victorieuse en Jésus-Christ. On continue à répondre à la question « Qui suis-je? » mais avec... la réfutation d'erreurs. Christ qui vit en moi, c'est certainement la clé de voûte sur notre identité en Jésus-Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. T'es quoi toi? Moi je suis un chrétien, j'appartiens à Christ. C'est quoi ton identité? Mon identité c'est un enfant de Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'ai été racheté à un grand prix. Mon identité c'est ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ. Ça, c'est l'identité chrétienne. C'est pas un credo, c'est pas une dénomination. Même si on va à une église qui est une dénomination, même si on adhère à un credo, c'est pas ça notre identité. Notre identité, c'est Christ. Maintenant, ce qui est très important par rapport à la vie victorieuse en Jésus-Christ, c'est comment y avoir accès. Et c'est par la foi, OK? C'est Christ qui vient à moi. Et si je viens encore dans la chambre, je viens dans la foi au Fils de Dieu. Mais pour pas tomber dans des pièges, avant de voir comment avoir accès, on va voir ça la semaine prochaine, on va voir comment on peut prendre un détour. Des mauvais accès, des faux accès. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va simplement voir ça avec... des catégories de mauvaise compréhension de c'est quoi la vie chrétienne, ok? C'est quoi être un chrétien, mais du côté négatif. Souvent, ça nous aide à comprendre ce qui est l'erreur, souvent, ça va nous comprendre c'est quoi la bonne affaire. Fait qu'on va clairer du chemin ce qui n'est pas la bonne chose pour nous aider à la semaine prochaine à mieux comprendre c'est quoi la vraie bonne chose, ok? Mais juste pour vous dire, il y a des choses que je vais faire par esprit pour répéter plusieurs fois à travers toute la série. Tout est une question de... Puis là, si ça me dérange que je dise ça, c'est pas grave, mais je dis focus, là. Je pense que c'est un anglicisme, là. Tout est une question de focus. Parce que ce sur quoi je vais me concentrer, c'est de ça que je vais dépendre. Hein, vous vous rappelez, j'ai dit dans notre société, il y a des modèles, là, mettons les stars ou les stars de sport, les stars du showbiz et tout ça. Puis là, les gens regardent à ça, puis là, ils dépendent de ça là, pour leur identité. Ils veulent être comme les sportifs de tel sport ou comme telle vedette de la musique ou tout ça. Ben pour nous, si on regarde à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, si c'est à lui que je regarde pour tout ce qui est de la vie, de la piété, ben je vais dépendre de lui pour vivre cette vie. OK? Donc, la question du focus est tellement importante. Fait que là, on va voir des mauvais focus, des endroits à ne pas regarder. Tu vas voir, tout est dans le problème, tout est dans la subtilité. C'est sûr que si on regarde au diable, on va dire, ben oui, un chrétien, ça ne devrait pas faire ça. Mais Satan nous a beaucoup plus subtilement que ça. Et donc, on va y regarder ensemble des endroits à ne pas regarder, des mauvaises compréhensions de c'est quoi la vie chrétienne, notre identité en Christ. D'abord, la première catégorie, c'est simplement, on peut appeler ça la théologie de la lutte, ou, une expression qu'on emploie souvent ici, la sanctification par les œuvres. OK? Donc, si tu fais ça, tu es un bon chrétien. Si tu fais pas ça, tu n'es pas un bon chrétien. Si tu fais ma liste, tu es un bon chrétien. Puis l'autre, sa liste, n'est pas bonne. Puis, OK? C'est toute ça l'idée, mais là, je vais développer. La checklist. La checklist de godliness. Pour reprendre une citation devenue célèbre par un grand théologien de cette église. Donc, l'idée ici, c'est pas de renier la réalité des épreuves. Là, quand je dis, je parle de la théologie de la lutte, c'est pas comme la vie chrétienne n'aurait pas à avoir de lutte, n'aurait pas à avoir de problème. C'est pas de ça ici qui est question. Je veux dire, on est dans une guerre spirituelle, c'est normal qu'il y ait des combats qui vont découler de ça. Plutôt la question, c'est le fait d'avoir la vie victorieuse en Jésus-Christ, ce n'est pas atteint en essayant plus fort. C'est pas en luttant fort par toute ma capacité pour essayer d'avoir la victoire, s'appuyer sur mes propres forces pour essayer d'avoir la victoire. C'est ça l'idée de la sanctification par les œuvres ou cette théologie de la lutte. C'est lutter par mes propres forces et non par celles de Dieu. Finalement, c'est l'expérience de Romains 7. Ah, je veux, puis j'ai des bonnes intentions, mais misérable que je suis. Ça finit mal parce qu'il y a ce combat-là. Puis, le problème, c'est que on peut développer des dépendances à des choses qui paraissent pas si mauvaises. Parce que, OK, si je disais, OK, qui ici qui est dépendant de la cocaïne? Qui est de... Tu sais, bon, peut-être si on parlait de pornographie, peut-être qu'il y en a qui n'oseraient pas dire, mais peut-être qu'il y en a qui sont dépendants de ça, mais... Je veux dire, il y a des choses qui sont évidentes, qui sont vraiment de la chair, mais il y a des choses qui sont moins évidentes, mais qui sont quand même de la chair. Et c'est là que la trappe est pour les bons chrétiens, puis ceux qui veulent vraiment plaire au Seigneur. C'est quand ça paraît bien, c'est quand on peut justifier ça comme, ben c'est pas si pire que ça. Mais j'aimerais vous dire que toute dépendance qui est de la chair, je l'ai effleuré ce matin, qu'elle ait l'air bonne la chair ou qu'elle ait l'air mauvaise, la chair, c'est la chair et elle ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour moi qui invente ça, c'est dans Romains 7:8-7. La chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, ça mène à une vie de frustration, d'échec, de tension, de tension dans mon cœur, tension relationnelle, par des vaines tentatives d'essayer de garder la bonne loi de Dieu sans la puissance de Dieu. Le problème, c'est pas la loi. La loi, elle est bonne parce que c'est la révélation du caractère de Dieu. Le problème, c'est d'essayer de m'en servir pour plaire à Dieu. La loi ne nous est pas donnée pour nous appuyer dessus pour essayer de plaire à Dieu. La loi nous est donnée comme un précepteur qui nous conduit à Christ. La loi nous montre comment on est dans le besoin et comment on a besoin de Christ. C'est pour ça qu'elle est bonne, la loi, parce qu'elle nous montre constamment qu'on est en besoin. Elle nous montre toujours celui qui est la solution.
Amen.
C'est ça le rôle de la loi. Mais si je tombe dans la sanctification par les œuvres, la théologie de la lutte, je vais essayer de me servir de la loi comme un moyen pour grandir, pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Comment qu'on peut plaire à Dieu?
Par la foi.
Par la foi, car il est impossible de lui être agréable sans la foi. Amen. Autrement dit, je peux faire toute ma checklist de godliness, mais si c'est pas par la foi, ça plaît pas à Dieu. Je peux avoir l'air du beau chrétien speak and span, mais si c'est pas par la foi, fait que c'est pas le speak and span, je veux dire, c'est correct de se mettre beau pour venir à l'église, puis il y a des principes qui peuvent aller en dehors de ça, mais si l'idée c'est que c'est là-dedans qu'est ma confiance, puis si c'est une fin en tant que telle, c'est ça la tromperie. Donc, vous savez, il peut y avoir les œuvres de la chair évidentes, là, tu sais, comme dans Galates 5, là, je vais vous en donner une coupe, là. Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, ok, puis il y a une longue liste de même. Mais aussi, il y a l'œuvre de notre chair qui peut juste être, tu sais, comme bien intentionnée, mais religieuse. Mm-hmm. Mais Jésus est tout aussi clair. Écoutez ce qu'il dit. C'est l'esprit qui vivifie. La sœur, elle sert un petit peu quand même. C'est pas si mal. Non, non, Jésus était très clair. La chair ne sert à rien. Pour ça, quand Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire par vous-même, avec votre chair tout seul, là, vous ne pouvez rien faire, puis la chair, elle sert à rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fait que les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et en lui, on va, les œuvres qui plaisent à Dieu, c'est des œuvres par la foi qui sont le fruit de cette vie de Christ en nous. Et donc, la chair ne sert à rien parce qu'elle ne nous connecte pas par la foi à celui qui travaille. Ben, je vous le répète aussi, je vais le répéter souvent. La foi n'est pas une œuvre. La foi, c'est dépendre de celui qui travaille, de celui qui œuvre. Ça, c'est une distinction importante. La foi, c'est pas une œuvre, c'est dépendre, c'est se confier dans celui qui travaille. Et vous savez, on n'est peut-être pas les seuls qui ont eu de la misère avec ça dans l'histoire de l'Église, parce que déjà, avec les Galates, Paul a dit aux Galates dépourvus de sens, « Qui vous a fasciné? » Il y a une fascination dans ce dont on parle ici. La théologie de la lutte, la sanctification par les œuvres, les Galates étaient tombés là-dedans. « Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair? » Voyez-vous, l'idée, c'est que par la foi, je vais marcher par l'Esprit. Mais si j'y vais avec malice, puis tu sais, avec ou même la bonne loi de Dieu, mais que j'y vais avec la puissance de ma chair, c'est pas par la foi, c'est la chair. Donc, juste pour vous aider un peu plus à comprendre ici l'erreur de cette théologie, je vais vous donner une couple de choses plus pratico-pratiques. Bon, maintenant que je vais atteindre la victoire, il faut savoir que la victoire n'est pas atteinte simplement par la bonne puissance. Non, excusez, je refrains ça, j'ai mal lu. La victoire n'est pas atteinte par en ayant la bonne puissance, mais le mauvais but. Je pourrais pas... Tu sais, j'ai beau avoir toute la puissance du monde, si j'ai pas le bon but, je vais pas avoir la victoire. Mm. OK? C'était-tu clair, hein?
Oui.
Comme dirait Dave, c'est-tu clair, là? Tu m'as fait rire quand tu dis ça. Ouais, mais regarde. Pour atteindre la victoire, c'est pas suffisant d'avoir toute la puissance du Saint-Esprit. Ça me prend le bon but aussi. OK? Puis là, je vais vous l'expliquer. Pendant des années, j'étais conscient de mon besoin de puissance du Saint-Esprit. Puis on priait, tu sais, puis de « Seigneur, je veux marcher par l'Esprit, puis, tu sais, je veux pas être un chrétien charnel qui m'appuie sur ma chair. » Mais j'étais inconscient de toute l'importance du but. Parce que mon but était juste un peu à côté. J'étais pas là comme « Ah, je vais aller faire la vie comme ça me tente, puis je vais traîner d'un bord, puis je vais faire ci, puis ça. » Non! Vraiment, je voulais plaire au Seigneur, puis tout ça, et je voulais aussi le faire par l'Esprit, mais mon but était pas tout à fait comme il devrait être. Puis là, je vous explique. J'avais vraiment l'intention là, de marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir des désirs de la chair, mais mon focus était la loi. Ouais. Puis je vous explique comment, puis vous allez le voir avec plus d'autres exemples, mais il y a une loi spirituelle, là, puis là, si je dis loi, puis je veux, en tout cas, la loi de Dieu, la révélation du caractère et de la volonté de Dieu, va toujours suivre cette vérité, cette grande vérité spirituelle. Je vais dépendre de ce sur quoi je me concentre. Et donc, si je me concentre sur la loi de Dieu, la bonne loi de Dieu, là, de quoi je vais dépendre? De la loi. Est-ce qu'on est fait pour dépendre de la loi ou on est fait pour dépendre de Dieu? Puis la loi pourtant est bonne, là. En fait, la loi est parfaite, là. Ça le dit dans les psaumes. Tu sais, la loi de Dieu est parfaite, elle restaure l'âme. Elle est bonne, la loi de Dieu. On n'est pas antinomien. Mais il faut s'en servir selon l'usage que Dieu nous a donné. Par exemple, OK, je pense que j'ai déjà référé à ça un peu, mais je peux avoir le bon but, là, des bonnes choses comme but, comme moi, là, je veux la sainteté, je veux une vie qui reflète Christ dans tout ce qu'il est. Tu sais, la sainteté, c'est pas sainte ni touche, c'est l'idée de à part. Je veux montrer comment mon Dieu est unique, puis comment en appartenant à lui, ma vie est un parfum de Christ, elle n'est pas comme le reste du monde. C'est un bon but, n'est-ce pas? C'était ça mon but. Ou la liberté, je veux pas être esclave du péché, je veux pas être esclave de mes convoitises, du mensonge. Je veux jouir de cette liberté qui est en... Est-ce que c'est bon? C'est tout à fait bon? Et c'est dans la parole de Dieu? Mais si ça est mon but, et non pas Jésus-Christ, je passe à côté. Jésus-Christ, il est ma sainteté. Si j'ai lui, j'ai toute la sainteté. Voyez-vous, je peux chercher la sainteté juste comme quelque chose. Mais si je cherche quelqu'un qui est ma sainteté, si je cherche Christ qui est ma liberté, il y en a un qui cherche une personne, l'autre cherche une chose. Mm-hmm. Il y en a un qui c'est un livre, il y en a un qui c'est froid, c'est distant, l'autre c'est une personne qui m'aide, qui est proche, qui me réconforte, à qui je peux parler. Mm-hmm. Il y en a un qui je suis un peu seul avec tout ça. Il y a vraiment une différence. Je continue, puis ça va peut-être faire encore allumer des lumières. Je dirais que j'étais pris dans le piège de Romains 7. Okay? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est l'expérience chrétienne, hein? Quand on est sauvé, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Okay? On prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve en moi cette autre loi qui est dans mes membres. C'est à l'intérieur. Moi, je vois dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon... C'est ça l'idée de la théologie de la lutte. Elle lutte contre la loi de mon entendement. Dans ma tête, là, je veux faire des choses, mais je suis rendu captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Fait que je veux faire la bonne affaire, mais je suis pogné que je suis pas capable. C'est pour ça qu'il dit, je veux faire ce que je fais ce que je veux pas, puis je fais pas ce que je veux. C'est là que là, il dit, pauvre Paul, ça va pas bien son affaire. Non, parce que comment qu'il termine, il dit, misérable que je suis. C'est ça l'expérience, la résultante de la théologie de la lutte. C'est dire misérable que je suis. Mais je dirais que ce n'est pas une mauvaise expérience en autant que ça nous amène à la question. Qui me délivrera? Pourquoi? C'est pas « Donne-moi une nouvelle liste, Seigneur! » Non, c'est plutôt « J'ai tout essayé, les listes possibles et imaginables. Qui me délivrera? » Gloire soit rendue à Dieu qui c'est lui qui nous a franchis. Puis là, on apprend aussi dans le chapitre suivant que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché puis de la mort. Donc, Jésus-Christ est non seulement la source de la vie, avec la puissance pour la vie victorieuse, mais aussi, il est le but de notre vie. Et je veux vraiment qu'on voit ça ensemble, parce que, tu sais, c'est bien beau à dire Jésus, mais c'est quoi ça veut dire? Il faut vraiment qu'on prenne le temps de décortiquer ça ensemble. C'est pour ça qu'on prend vraiment notre temps, parce que c'est des choses que des fois, on sait tout quoi dire comme chrétien, mais... Ça clique pas. Par exemple, lorsque j'apprends, comme Paul le dit, j'apprends à être content dans l'état dans lequel je me trouve. OK, Paul dit ça dans Philippiens 4. J'apprends à dépendre de Christ en regardant à lui, lui qui vit en moi, et c'est ça mon focus. C'est pas que la situation se résorbe. C'est pas que ça aille mieux. C'est pas que j'ai pas de problème. Non, c'est que je trouve Christ avec le problème. C'est que je trouve Christ quand ça va mal. C'est ça, regardez à lui. Il est le trésor dans la tempête. Non, ouais, trésor ou... c'est pas trésor que je te pouvais dire, c'était refuge dans la tempête. Mais trésor... il y a le trésor aussi, là. Ben oui, quand même. Merci Geneviève, tu m'encourages. Donc, c'est ça. C'est simplement d'arriver à se concentrer... sur notre nouveau leader, pour dépendre de lui. C'est pas comme si avant on avait le péché comme maître, on était sauvé, puis là on a la loi comme maître. Non, on a Jésus comme maître. On prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle nous conduit constamment vers l'auteur de la loi, vers celui qui est le but. Puis, parce que la loi, là, pour vous dire comment elle est bonne, ça dit que quand on marche par l'esprit, on accomplit la loi de Dieu. Donc, tu sais, la volonté de Dieu, c'est qu'on accomplisse la loi, mais la façon, c'est comment? C'est par Christ qui vit en nous. Un autre élément qu'il faut comprendre, la victoire, on ne peut pas l'atteindre là, en essayant d'être vigilant à ne pas pécher. Là, je vais me garder contre le péché. Encore là, tu sais, ça semble quand même une bonne idée, là. Tu sais, on n'est pas supposé de pécher comme chrétien, là. Encore là, c'est une question de focus, de mauvais focus. Parce que pas vouloir enfreindre la loi, ça me fait porter les yeux où? Sur la loi. C'est pas Jésus. Voyez-vous? Voyez-vous la subtilité? Puis voyez-vous comment c'est pas quelque chose de mauvais? Ben voyons, je veux pas pécher. C'est ça qui fait que c'est tellement trompeur. Parce que la dépendance, elle devient de moi, de ma propre force. Je veux pas pécher, mais je regarde pas à celui qui est ma force, qui est ma vie. Et malheureusement, ici, ce piège-là fait perdre la joie à tellement de chrétiens. Puis tu sais, on a parlé de situations anxiogènes, comment la crise 2020 est anxiogène. Vous voyez quoi? Bien avant 2020, là, ça, c'est très anxiogène. Très anxiogène. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Puis là, on veut pas être vrai. Puis on veut pas, tu sais... Parce que là, on sait bien, voyons, on sait que le péché, c'est pas bien pour un chrétien. Fait que là, on est comme tout pogné avec ça, parce qu'on a l'impression que c'est jamais correct. On tombe tout le temps court. Mais oui, c'est ça le but de la loi. La loi nous dit tout le temps que c'est pas correct. C'est ça le but. Parce qu'elle nous amène à regarder à celui qui est tout le temps correct. Mais attention, parce que quand... On a déjà parlé ça aussi, mais quand j'ai ça dans mes rapports avec les autres, ça fait des tensions. Je regarde mon frère, je regarde ma femme, je regarde mes enfants, ils sont jamais corrects. Ben, parce que c'est ça que là, puis c'est vrai. Mais là aussi, je regarde à Christ, oui, mais Jésus, peux-tu faire quelque chose avec eux? Ah, là, ça change la dynamique. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas corrects. Je veux dire, on veut pas changer de diagnostic. Ah non, tout est beau. Ben non, on vit pas sur un petit nuage, puis au pays des licornes, là. On vit dans la réalité, puis il y a du péché, puis ça brise les choses, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Christ est l'espoir dans toutes ces choses-là. Puis on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Encore là, c'est vraiment l'idée du celui. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce problème-là ici, de ne pas vouloir pécher, ça devient un focus partagé. Ma confiance est mitigée, elle n'est pas complètement en Christ. Je veux pas déplaire à Dieu, mais en même temps, je suis pogné avec ma lutte contre le péché et tout ça. Puis, vu que mon focus n'est pas à bonne place et qu'il est partagé, parce que tu sais, je veux plaire au Seigneur et tout ça, mais je prends pas le bon moyen, mais ça donne une dépendance partagée. Donc là, je crie à Dieu pour lui demander de l'aide. Puis là, je vois que je suis en échec. Puis là, je me bats. Puis là, je n'ose plus trop me présenter devant Dieu. Là, je deviens quelqu'un inconstant dans toutes mes voies, irrésolu. C'est pour ça que c'est misérable, ça fait perdre la joie, puis c'est anxiogène. Le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. OK? Puis là, je vais vous donner un point important. Pas un moment d'affaires important, je vais arrêter de dire ça. Puis tantôt, c'est important. Non, mais tout ce qu'on voit, c'est super important. Mais écoutez, le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Et c'est lui qui va nous montrer comment mettre en pratique la vérité. Et l'idée, c'est que je n'ai pas besoin de moi chercher des applications, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, comment mettre en pratique. Je dois dépendre de Dieu, regarder à lui, puis lui va montrer qu'est-ce que ça veut dire. La vérité qu'il est en train de me montrer, le péché qu'il est en train de me pointer. Il va montrer comment, en regardant à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire. De dépendre de Dieu là-dessus. Puis juste là-dessus, là, il y a des choses évidentes. Tu sais, la repentance, là, c'est encore bon pour la vie chrétienne. On a besoin de se repentir comme peuple de Dieu, là, justement, parce que la Bible nous dit que ça ne marche pas, mais on doit se repentir d'excuser le péché, d'être satisfait, ou peu importe c'est quoi. OK? Fait que... Mais c'est le Saint-Esprit qui va servir la parole, qui va mettre le doigt sur le bobo. Là, mettons, on écoute un message, ou on lit dans nos Bibles le matin, ou on est là en chantant un cantique des fois, puis le Seigneur nous amène des vérités, puis le Saint-Esprit va mettre le doigt sur le bobo, c'est voici ce que ça veut dire. L'idée, c'est d'avoir les yeux à la bonne place. Seigneur, c'est quoi tu veux me communiquer? Seigneur, je veux dépendre de toi. Parce que je répète, on dépend de ce sur quoi on se concentre. Si je me concentre sur quoi que ce soit d'autre que Dieu lui-même, ma dépendance ne sera pas bonne. Une variation de ce que je viens de dire sur l'idée de « je vais essayer de ne pas pécher, je vais être diligent pour ne pas pécher, je vais essayer de supprimer le péché dans ma vie. » OK, ça peut être un autre... Ça vient tout avec la théologie de la lutte. Levez-vous un beau matin, là, vous retroussez vos manches, puis moi, là, OK, le péché, là, je ne vais plus pécher dans ma vie. Juste une petite nouvelle. Peut-être que la journée va moins bien finir qu'elle a commencé. Vous allez être découragé. On peut avoir plein de bonnes intentions, mais... OK? Fait que c'est un peu l'idée, quand tu sais, ceux qui veulent essayer plus fort, puis Seigneur, tu sais, je vais être vraiment sincère cette fois-là. Mais pensez pouvoir supprimer l'attraction du péché sur notre chair. Pour nous, c'est impossible. Par exemple, ok, je vais donner un exemple. Si, avec une situation qui provoque l'irritation ou la colère, ok, une situation interpersonnelle ou au travail ou un bon coup de marteau sur les doigts ou je sais pas trop, là, ok, que je me dis, bon, ben la situation, c'est de ne pas perdre les pédales, de ne pas crier plus que 27 décibels. Attends, en tout cas, comprenez-vous? T'sais, bon, moi, essayer de garder ça. Hein?
Il
ne
pas bénir le marteau.
Ouais, c'est ça. Mais écoutez, l'idée, c'est que le but, c'est pas simplement à l'extérieur, je vais essayer de ne pas crier et tout ça. Parce que si je fais ça, mais qu'en dedans, je bouille, puis en dedans, là, je le tire au bout de mes bras, le marteau, ben, j'ai pas la victoire. Parce que ma chair n'est pas contrôlée. Ma chair est juste, ben, est contrôlée extérieurement. Mais le cœur à l'intérieur, c'est rien réglé. Tout effort de donner l'apparence extérieure de victoire, mais qui ne règle pas le problème intérieur du péché, c'est pas la vraie victoire. La vraie victoire, c'est lorsque dans des situations comme ça, j'ai une joie qui ne s'explique pas, une paix qui ne s'explique pas. On l'a déjà entendu à un moment donné pendant, pendant la pandémie. Je me rappelle d'une fois une soeur, mais moi, en tout cas, voilà, regardez, il ne faut pas qu'elle se sente mal, mais je pense qu'elle avait dit, j'ai une paix, je sais pas trop pourquoi, puis tu sais, il y avait beaucoup de choses anxiogènes, je ne me rappelle plus, c'était quoi, rendu les mesures, mais elle dit, j'ai juste une paix. Ben, ça, c'est la victoire. C'est pas qu'elle a essayé, c'est comme, c'est Dieu qui, même si ça ne fait pas de bon sens, normalement, où est-ce que tu dirais tout à être anxieux, puis tu as rongé les ongles jusqu'aux jointures, ouais, c'est ça. Poignet, merci. Ouais, alors jusqu'au coude, hein, c'est encore pire. Mais il y a une paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est la victoire, bibliquement parlant. C'est pas en essayant plus fort, c'est Christ qui vient en moi. C'est pas normal, c'est pas moi qui en ai la source. C'est Dieu, puis c'est pas parce que j'ai essayé plus fort, c'est parce que j'ai regardé à celui qui est capable. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Bon exemple là-dessus sur la paix de Dieu. Je m'inquiète de quelque chose, ça veut dire quoi regarder à Dieu? En toute chose, je fais connaître mes besoins à Dieu, avec des prières, des supplications, puis même arriver à dire merci Seigneur, les actions de grâce, là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur puis mes pensées, ça c'est la victoire intérieure dans le cœur, en Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime Philippiens, ça en est une autre raison, ça. C'est dans Philippiens 4, 6 et 7. Bon, ok. Juste un dernier point là-dessus, là. Juste pour clore sur cette théologie de la lutte. La victoire, c'est pas... Ça, là-dessus, il y en a que ça va faire sourire, parce que vous avez sûrement déjà entendu ça dans votre expérience chrétienne, là. La victoire, c'est pas d'être sanctifié en se centrant sur le service. Puis là, je réfère au classique. T'as des problèmes, va évangéliser, sers dans l'église, puis tes problèmes vont se régler tout seul. Moi, en tout cas, je l'ai déjà entendu, celle-là, là. L'erreur focusée sur le service pour le Seigneur et non pas sur le Seigneur qu'on sert. C'est pas qu'encore le Seigneur, le service c'est pas mauvais, là. Je veux dire, on est content de servir le Seigneur, mais le focus c'est pas le service, c'est le Seigneur qu'on sert. Et on est, ouais, ça peut devenir un idole, puis on est sauvé pour le glorifier en le servant comme étant un fruit de sa vie, tu sais. Le service, c'est un sous-produit, c'est le fruit d'avoir sa vie, d'être sauvé. Puis, tu sais, ses commandements ne sont pas pénibles, ça va donner comme résultat le service. Mais le focus, c'est pas le service, le focus, c'est celui que je sers. Parce que on n'est pas sauvé pour servir sans vie. Tu sais, un espèce de service, là, mort, des œuvres mortes. Mais on est sauvé pour porter du fruit. Et ce fruit-là, c'est servir le Seigneur de différentes façons. Fait que, comprenez, là, c'est pas une question de servir ou pas servir le Seigneur. C'est plutôt une question de service mort versus service vivant. C'est plus ça la question ici. La question, c'est la source du service. Puis on voit encore que, comme avec les erreurs précédentes, une question de mauvais focus sur une bonne chose au lieu de la bonne personne. Si on regarde ça comme idée avec ce que j'ai dit sur la théologie de la lutte, ça va beaucoup nous aider. Maintenant, la théologie, où on pourrait dire la tromperie du laisser-aller. Ça, c'est l'autre bord. Le laisser-aller. Ça, c'est l'opposé de la théologie de la lutte qui veut mettre tant d'efforts, mais Le laisser-aller, c'est pas mettre d'effort. Minimaliste, la chrétienté McDo. Où ça, on a ça beaucoup. La chrétienté, bénéfice maximum, engagement minimum. C'est beaucoup dans la chrétienté moderne. Puis si on amène ça dans l'idée pour avoir la victoire, « Seigneur, je veux avoir la victoire, mais je veux rien avoir à faire pour ça. » Maintenant, je veux juste clarifier sur le « à faire », sur l'effort. La question, c'est le type d'effort. On a bien vu là avec le premier point que ce n'était pas se retrousser les manches, mais on a un effort à faire, c'est-à-dire faire le choix conscient de se tourner vers Dieu, de se confier en lui. Ça, c'est pas naturel. Ça demande un effort, ça demande une discipline de dire « je vais pas regarder à moi-même, je vais pas laisser juste les choses aller de main, je vais regarder à Christ, je vais me tourner vers lui, je vais me confier en lui. » OK? C'est l'effort de la foi, si je peux dire. L'effort de s'appuyer sur celui qui travaille. C'est pas l'effort de faire le travail, mais de se confier dans celui qui peut faire le travail. C'est développer le réflexe de regarder à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, pour prendre les mots d'Ésaïe, de se tourner vers l'Éternel pour être sauvé, délivré dans nos situations. Et oui, c'est un effort parce que c'est pas automatique, c'est pas dans notre nature humaine. Une première chose qu'on peut considérer dans cette erreur-là, bon, c'est évident, là, avec juste, comment je l'ai dit, avec le laisser-aller, mais la victoire ne s'atteint pas simplement avec la passivité. Ça, ça serait le easy believism de la sanctification. Tu sais, il y en a là, qui prêchent un évangile, OK, 1, 2, 3, puis t'es sauvé, là. OK, t'es pécheur, Jésus t'aime, dis cette prière-là, puis tu vas aller au ciel. OK, ça, on croit pas à ça pour le salut, mais on croit pas non plus pour la sanctification. OK, viens à l'église, viens en avant, là, fais une petite prière, là, tu sais, t'as été touché par le... Pleure un petit peu, là, puis là, tu sais, là, tu vas avoir la victoire. Tu sais, on croit pas à ça non plus pour la sanctification. Maintenant, la foi... OK, ça me dérange pas de me répéter, parce que je vais tellement dire souvent, finalement, vous allez voir, le répéter vous-même. Je répète que la foi, c'est pas une œuvre, OK? Mais c'est dépendre de celui qui travaille. Donc, c'est pas la passivité, c'est de décider de dépendre de celui qui travaille. Parce que si je fais rien par défaut, je vais dépendre de la mauvaise affaire. Puis là, n'importe quoi dans notre espèce de spectre de dépendance qu'on peut avoir, si je fais rien, je vais dépendre de ça. Mais je dois décider de dépendre de Christ. Et donc, on comprend tous que c'est pas en essayant plus fort, mais que c'est... tu sais, pour mettre l'équilibre là, entre les deux côtés, c'est l'obéissance de la foi. C'est pas juste de l'obéissance, parce que ça serait de la sanctification par les œuvres. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est pas juste non plus juste la foi, juste croire. Ça serait de la passivité. Ah, oh, je veux juste croire, je vais m'asseoir. Puis... Non, c'est vraiment croire, obéir. C'est une foi qui débouche sur... l'action, puis tu sais, mais une action de dépendre de Dieu, puis... Je vais vous donner un exemple. Très concret, vous allez comprendre. Ça sort beaucoup dans les temps de prière. « Seigneur, délie ma langue pour parler. » Là, le Seigneur met devant quelqu'un, devant nous autres, le Saint-Esprit nous dit « Parle-y de moi. » Bon. Si on fait rien, puis on attend, puis probablement qu'il ne va rien se passer, puis ça, la passivité. Ou je peux aussi, là, ben go, essayer, puis là, tu sais, puis arriver à mes résultats, puis pousser... Mais si j'ai la disposition que je suis en train de vous décrire, la bonne disposition, Seigneur, tu veux que j'y parle? Donne-moi les mots. T'sais, juste se tourner vers Dieu. Dieu, donne-moi les mots. Donne-moi la compassion aussi. Je veux pas juste des mots. Je veux te présenter, Seigneur. Je veux montrer comment tu es merveilleux, comment tu es le seul sauveur. Je veux que cette personne-là puisse voir le Dieu merveilleux que tu es. Mais en plus, vous n'êtes pas obligé de tout dire ça avant de parler. Mais comprenez-vous, là, l'idée, c'est que c'est... Au lieu, c'est pas juste on attend qu'on fait rien, c'est pas essayer bien fort, mais c'est il y a l'effort de dire Seigneur, je peux faire ça moi-même, je veux que toi tu le fasses par exemple. Mm-hmm. Puis là, tu vas me donner les mots, ça veut dire sûrement déjà arrivé. Vous demandez à quelqu'un, puis là, des versets vous viennent que hein, je me rappelle ce verset-là. Ben oui, c'est le Saint-Esprit qui te l'a rappelé, tu t'en rappelais plus, mais lui, il s'en rappelait. Hein, ça a déjà fait ça, on tellement il y a du monde, où des fois, il nous donne une illustration pour illustrer quelque chose, comme l'histoire de Blondin, pour illustrer la foi, puis. Ça, c'est le Saint-Esprit qui embarque. Fait que, voyez-vous, on a fait l'effort conscient de dépendre de Dieu, puis lui, il s'est mis à faire le travail. Mm. Puis Dieu, il n'aurait pas besoin qu'on fasse ça, mais il a décidé que ça... Parce qu'on pourrait juste être là passivement, puis attendre, puis il ferait le travail, mais c'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. Il veut qu'on se tourne vers lui, il veut que on dit Dieu, j'ai besoin de toi, puis que comme ça on le glorifie comme étant un enfant dépendant par lequel il travaille, puis c'est évident que c'est lui qui fait le travail. Mm. OK? Ça vous aide-tu à bien comprendre l'équilibre entre les deux, là? Je pense que c'est un bon exemple. Bon. Là, juste des petites erreurs. Je ne sais pas si on les voit tant que ça dans notre milieu ici, mais peut-être dans d'autres milieux. Certains vont dire, la victoire, ça va arriver anyway, là. T'as pas besoin de t'en occuper. Mm-hmm. Tu sais, on parlait tantôt du easy believism. Ça serait un peu le calvinisme de la sanctification. Je ne sais pas trop comment le dire, là. Mais fais rien, ça va tout arriver. Puis là, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas blesser personne, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est-à-dire, tu sais, Dieu est souverain, mais il a décidé qu'on était responsable aussi de marcher par la foi. Tu veux qu'on dépende de lui. Fait que c'est pas comme, ah ben oui, la victoire, ça va arriver. Non! Et Dieu, il veut que tu dépendes de lui. Tu sais, ça serait une espèce de fatalisme. Bon, ben, tu sais, on peut être fataliste d'un mot. Ben, ah, ça va tellement mal, ça va tellement mal, on va te laisser ça aller, de toute façon. Mais on peut avoir aussi un fataliste de l'autre bord. Bon, de toute façon, on va l'avoir la victoire, t'as pas besoin de rien faire. Non, Dieu veut qu'on dépende de lui. Puis il y a cette coopération avec Dieu par la foi, OK? Puis une autre affaire, bon, qui pourrait être un peu une continuation de cette pensée-là, c'est que, ben, je vais grandir dans le Seigneur, peu importe. OK? L'idée, ça serait que, peu importe ce qu'on fait, c'est que, bon, on va grandir en tant que chrétien. Bon, c'est vrai qu'en tant que, si on a l'Esprit de Dieu, Dieu va nous amener à grandir et tout ça, mais la tromperie là-dedans, c'est que ben, d'abord, ça part du départ. C'est-à-dire, quand t'es un nouveau chrétien, là, t'es anémique, mon gars, t'as pas idée, là. Tu sais, parce que tu sais, tout le temps pour grandir, quand tu commences au début, tu sais, tu peux être quasiment à zéro, là. Alors qu'on sait, c'est quoi l'expérience? Des fois, il y a des chrétiens, là, ils viennent d'être sauvés, puis ils nous donnent des leçons à nous, les vieux chrétiens. Ben, ils ont donné cette simplicité, puis ils aiment le Seigneur, puis tu sais. Fait qu'ils peuvent avoir un zèle. Puis aussi, l'autre côté de la médaille, tu peux être un vieux chrétien encrassé, encrouté, je sais pas si c'est le bon mot, en tout cas. Mais pris dans cette... Écoutez, c'est encore là, c'est pas d'hier, parce que ça dit dans Hébreux 5, nous avons beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ici, l'erreur, c'est de confondre l'idée de croissance chrétienne puis maturité chrétienne. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient juste d'être sauvé peut grandir très vite, quelqu'un qui fait longtemps qu'il est sauvé peut être stagnant, mais c'est vrai qu'avec les années, puis on a fait du ménage, c'est normal qu'on ait gagné de la maturité chrétienne, c'est-à-dire, on a passé par des expériences, et puis, tu sais, en tant que parent chrétien, tu sais, si je parle à des jeunes qui n'ont pas encore d'enfants, c'est normal que je vais avoir une maturité là-dessus. Ça veut pas dire, par exemple, que je vais être nécessairement plus avoir plus grandi dans le Seigneur. Comprenez-vous la distinction entre les deux? Ouais. Oui? OK. J'ai baissé la tête au mauvais moment. J'ai demandé ma question, puis je t'allais voir mes notes après. Et un dernier point là-dessus, sur cette erreur là, de toute l'idée de la passivité. Ça serait que la victoire, ça vient par l'éradication du péché. Et ça, il y a certains milieux qui disent ça, on appelle ça en anglais « sinless perfection ». Quand on est sauvé, il n'y a plus de péché dans notre vie. Ben, il y a des milieux pentecôtistes qui prêchent ça encore de nos jours. Ben, en tout cas, plus je dis eux autres, c'est eux autres que je connais, il y en a peut-être d'autres, « sinless perfection ». C'est une fausse doctrine, là, qui ne comprend pas tout le concept. Vous savez, quand ça dit, puis ça, c'était la semaine passée, en tout cas, quand ça dit que, ben oui, c'est la semaine passée qu'on a vu ça, que quand on est sauvé, Dieu a brisé la puissance du péché. Le mot pour briser, là, OK, c'est différentes traductions le traduisent de différentes façons. C'est un mot grec qui ne doit pas être si facile à mettre dans une boîte parce que les différentes façons qui est traduit dans la Bible, c'est souvent différent. Ça veut dire que c'est un mot riche en signification. Katargeo, pour ceux qui connaissent un peu la langue. L'idée, là, c'est pas une éradication complète, il n'y a plus de péché dans ma vie, c'est que, on pourrait dire un peu comme à la boxe, Pang! Il a mangé un coup assez fort que là, il est rendu sur le tapis. Tu sais, à boxe, hein, que le gars est rendu sur le tapis, là, tu sais, l'autre, le match est pas loin d'être fini, là. Mais Dieu a fait ça avec le péché. Puis c'est pas qu'il n'y a plus de péché dans ma vie, mais c'est plus la puissance dominante dans ma vie. Vous rappelez-vous, on a vu ça la semaine passée. OK, c'est ça la... Fait que sinless perfection, ça serait dire, ah, mais non, Jésus, il a détruit la puissance du péché, il n'y a plus de péché dans ma vie. Non, c'est une mauvaise compréhension de ce que la Bible enseigne. Puis c'est une confusion aussi avec, tu sais, j'ai encore ma nature pécheresse, dans le sens de ma chair, ou le corps du péché, comme ça dit dans Romains 6. Mais mon vieil homme, comme dirait M. Côté, pour vous, mesdames, votre vieille femme, le vieil homme, lui, il est mort. Lui, c'est fini. Fait que là, les gens vont confondre ça. Ah, t'as vu, le vieil homme est mort, il n'y a plus de péché. Puis ça, non, le vieil homme, c'est ma vieille nature, c'est ce que j'étais avant Christ. Maintenant, je suis une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Donc, en position, je passais de la mort à la vie. Ça, c'est le vieil homme, nouvel homme. Mais ma nature péchée, c'est encore là, comprenez-vous? C'est important de comprendre la distinction entre les deux. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais j'ai encore ma chair. OK? Donc, la vérité, c'est que le péché demeure et agit encore en nous-mêmes. Et même des fois, il faut l'admettre, des fois, malgré le fait qu'on est sauvé, le péché peut avoir du succès avec toute la tromperie et tout ça, quand que on n'est pas centré sur Christ comme on veut, comme on devrait, puis comme aussi on vit par la foi comme on devrait. Donc, je veux juste terminer cet après-midi avec cette pensée. Parce que ça serait un peu vous laisser sur une note triste, juste des erreurs. Bon, mais comme je l'ai dit, c'est bien. Là, je pense que vous avez plus. Est-ce que vous avez plus de facilité à comprendre la bonne affaire maintenant que j'ai enlevé les mauvaises affaires? Ça valait-tu la peine? Ah, on en recommence. OK, rouvrez vos bibles, non. Mais juste pour terminer sur une note un peu différente, plus positive, pour préparer aussi pour le prochain message. Je vais vous tester encore. Qui peut me dire par cœur? Romains 8, 2. C'est pas si long, c'est tellement merveilleux. C'est de l'or en bord, c'est de la dynamite. Romains 8, 2. Si je vous dis peut-être, ça parle de loi. La loi, mais pas la loi dans le sens de la loi comme la loi de Moïse, les 10 commandements, mais loi comme la gravité. La loi de la vie... La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va voir ça la semaine prochaine. Une loi qui en contre-attaque une autre, mais une qui est supérieure. On va le développer en détail la semaine prochaine, puis comment avoir accès à cette loi supérieure, comment vivre par cette loi supérieure. OK? Puis comment tout le monde... on va beaucoup développer ça dans notre série... comment le monde, le péché, le diable, la chair, comment est-ce qu'ils veulent court-circuiter cette loi supérieure de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais je veux amener tout ça à notre question d'identité. OK, pour terminer. On dit en anglais « counteraction ». Je l'ai cherché en dictionnaire. Ça disait « contre-attaque ». « Counteraction », c'était pas très... Contraction, contraction, ça se dit pas.
Contre-offensive.
Contre-offensive, parce que contraction, c'est une femme qui est enceinte, une femme qui accouche. mais la contre-offensive, contre-attaque, c'est l'idée, c'est que un va contre l'autre, mais ici, on parle d'un qui est supérieur à l'autre. OK? Parce que la loi de l'esprit de vie m'affranchit est plus forte que la loi du péché puis de la mort. Qu'est-ce que ça a à faire avec notre identité? Et je termine avec ça. C'est que si en Jésus-Christ, OK, je suis une nouvelle création, Dieu m'a donné un nouveau cœur, maintenant je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Maintenant, selon ma nouvelle nature, là, je suis content quand je peux marcher dans la justice. Je déteste le péché. C'était pas comme ça avant. Là. Quand le péché dominait dans ma vie, moi, le péché, j'étais bien content. Puis, comprenez-vous, Dieu a brisé les choses de façon fondamentale et ça, c'est ce qu'il a fait de moi, c'est ce que je suis. Et c'est tellement important qu'on conforme nos pensées là-dessus, qu'on transforme nos pensées là-dessus, parce que toute l'idée de contrecarrer et tout ça, c'est vivre selon la réalité. Pourquoi je dirais que mettons, face au péché, on parlait tantôt, j'aurais le goût de me choquer puis tout ça. Pourquoi que je voudrais réagir de la bonne façon puis pas juste me satisfaire de l'extérieur? Pourquoi je voudrais l'intérieur? À cause de ce que je suis, à cause de ce que Dieu a fait, c'est en harmonie avec ce que Dieu a fait de moi. Dieu n'a pas juste fait une job de patchage extérieur puis il a mis une couche de vernis sur le dessus, là. Il a complètement tout transformé. Donc, Dieu m'a changé complètement. Et donc, le désir que j'ai pour contrecarrer, c'est pas juste les apparences puis dire ça va être en surface. C'est la pleine victoire complète. Et donc, c'est pas juste « Ah, je vais enlever une mauvaise habitude, je vais remplacer par une nouvelle. » Non, c'est une transformation complètement de l'intérieur vers l'extérieur. Et je vous ai parlé d'avion la semaine passée. Là, je vais vous parler de montgolfière, mais pour amener juste un petit point pour terminer. Vous savez, c'est quoi une montgolfière? C'est pas un mongol qui est content, là. Non, mais il y a des mongols qui sont fiers d'être mongols, tu sais. C'est un beau pays, la Mongolie, là. C'est un mongol fier. Non. C'est. Oui. Non, mais c'est même pas une joke. Vous êtes en Mongolie, vous allez avoir des mongols fiers. Voyons, non, là. Je suis très, très sérieux. Presque. Non, mais c'est, vous savez comment c'est fait? Il y a un panier, on appelle ça un panier, je pense qu'on dessine ou la nacelle, je ne sais pas si c'est techniquement. Puis là, ben, l'air chaud va dans le ballon, puis ça fait monter. Donc, il y a une loi supérieure. Donc, la gravité nous tire toujours vers le bas, mais l'air chaud qui est emprisonné dans ce ballon, l'air chaud veut toujours monter. C'est pour ça qu'on a un ventilateur ici. L'hiver, hein, pour que l'air chaud descende. Puis il marche de l'autre bord l'été pour que l'air frais remonte, OK? Ben, la vie en Jésus-Christ, puis ce que Dieu fait dans notre vie, c'est qu'il nous a placés dans le panier pour qu'on monte. Mais là, ce qui arrive, des fois, on est là dans notre petit panier, puis on regarde, avez-vous déjà fait un petit tour de monde? Moi, je n'ai jamais fait. Pendant qu'il est le fun, mon oncle, il reste en Gaspésie, puis dans la vallée de Matapédia, il peut avoir des vents, puis à un moment donné, il y a un gars qui faisait ça, là, des tours de montgolfière, c'était un festival quelconque, puis il en a perdu deux, trois, genre pas mal loin, parce que le vent a pogné, puis c'est des montagnes, c'est une vallée. Ils sont tombés dans un champ à l'autre bout, là. C'était comme pas, en tout cas. Mais mon oncle était pas dans ceux, mais c'est lui qui racontait ça, l'histoire. Mais, tu sais, on peut être là, puis là, à un moment donné, il me semble qu'on commence à être un peu trop haut. Oh, il me semble que j'aime pas trop. Là, qu'est-ce qu'on fait? On sort du panier. Autrement dit, je vis ma vie chrétienne, puis il y a des affaires qui arrivent que j'aime pas bien bien, cette personne-là à job qui me tombe bien ses nerfs, puis ah, des fois ça peut arriver dans vos couples, mais le mari tombe ses nerfs de la femme, puis la femme tombe ses nerfs du mari. Ça peut, des fois ça arrive. Non, ça arrive jamais? Non, mais en tout cas. Là, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On a le goût de sortir du panier. C'est quoi l'idée de sortir du panier? C'est qu'on prend les choses en main, on là, je tanné, j'ai ras le pompon, puis on sort du panier. Puis on peut le faire en essayant bien fort de régler la question où on laisse tout aller, puis lâche-moi tranquille, je veux rien savoir. Fait que soit dans la lutte, soit dans la passivité, mais c'est la chair, puis on sort du panier. Alors que la victoire, c'est simplement de rester dedans. Et tu sais, quand ça dit, tout ça pour vous illustrer un passage que vous connaissez aussi, ça dit que les armes avec lesquelles on lutte sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Puis toutes les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu sont amenés captifs à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qui va faire que je vais sortir du panier, que je vais partir de là? C'est comment je pense. Puis c'est là que c'est important l'identité. Si Dieu a fait de moi un enfant de Dieu, si Dieu a fait de moi ce qu'il a fait, pourquoi je sortirais? Si Dieu me donne une paix qui surpasse toute intelligence, pourquoi je serais si anxieux? Comprenez-vous? L'idée, là, pourquoi je sortirais du panier? Parce que je vais sortir par mes propres raisonnements, je vais me trouver des raisons de sortir. Puis pourquoi je resterai en dedans? Parce que je vais méditer la vérité de la parole, puis c'est tellement riche, les richesses incompréhensibles de Christ, c'est ce qui fait que je vais vouloir rester dans ce panier-là. Le combat des pensées. C'est pas comme, hey là, let's go, là, rester dans le panier, là. Non, il y a des raisons de rester dans le panier. Pourquoi je resterais dans ce panier de la grâce qui me fait élever, qui me donne la victoire sur la force de la gravité? Parce que Dieu me donne mille et une raisons dans sa parole. Je suis pas choqué, mais presque. Dieu me donne mille et une raisons. J'ai fait rire Raphaël. Dieu nous donne mille et une raisons de rester dans le panier. C'est là que tu comprends, on est bien censé de sortir. Ben oui, on est humain, c'est ça. Mais comprenez-vous, c'est quand on comprend ce qu'on est, qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. C'est la plus merveilleuse vie. On est dans une montgolfière, on vit au-dessus des problèmes. Pas qu'on n'a pas de problème, mais ils ne nous détruisent pas, ils nous mettent pas à terre. Amen.
Amen.
Je vais prier.